Le mont analogue, roman d'aventures alpines, non euclidiennes et symboliquement authentiques, par René Daumal. Chapitre 1er, qui est le chapitre de la rencontre. Le commencement de tout ce que je vais raconter, ce fut une écriture inconnue sur une enveloppe. Il y avait dans ces traits de plume qui traçaient mon nom et l'adresse de la revue des fossiles, à laquelle je collaborais et d'où l'on m'avait fait suivre la lettre, un mélange tournant de violence et de douceur. Derrière les questions que je me formulais sur l'expéditeur et le contenu possible du message, un vague mais puissant pressentiment m'évoquait l'image du pavé dans la mare aux grenouilles. Et du fond, l'aveu montait comme une bulle que ma vie était devenue bien stagnante ces derniers temps. Aussi, quand j'ouvris la lettre, je n'aurais su distinguer si elle me faisait l'effet d'une vivifiante bouffée d'air frais ou d'un désagréable courant d'air. La même écriture, rapide et bien liée, disait tout d'un trait
« Monsieur, j'ai lu votre article sur le mont analogue. Je m'étais cru le seul, jusqu'ici, à être convaincu de son existence. Aujourd'hui, nous sommes deux. Demain, nous serons 10. Plus, peut-être. Et on pourra tenter l'expédition. Il faut que nous prenions contact le plus vite possible. Téléphonez-moi dès que vous pourrez à un des numéros ci-dessous. »«
Je vous attends. » »« Pierre Sogol. » »«
37 Passage des Patriarches, Paris. »
Suivez 5 ou 6 numéros de téléphone auxquels je pouvais l'appeler à différentes heures de la journée. J'avais déjà presque oublié l'article auquel mon correspondant faisait allusion et qui avait paru près de 3 mois auparavant, dans le numéro de mai de la Revue des Fossiles. Flatté par cette marque d'intérêt d'un lecteur inconnu, j'éprouvais en même temps un certain malaise à voir prendre tellement au sérieux, presque au tragique, une fantaisie littéraire qui, sur le moment, m'avait assez exalté, mais qui, maintenant, était un souvenir déjà lointain et refroidi. Je relus cet article. C'était une étude assez rapide sur la signification symbolique de la montagne dans les anciennes mythologies. Les différentes branches de la symbolique formaient depuis longtemps mon étude favorite. Je croyais naïvement y comprendre quelque chose. Et par ailleurs, j'aimais la montagne en alpiniste. Passionnément, la rencontre de ces deux sortes d'intérêts si différentes sur le même objet, la montagne, avait coloré de lyrisme certains passages de mon article. De telles conjonctions, si incongrues qu'elles puissent paraître, sont pour beaucoup dans la genèse de ce que l'on appelle vulgairement poésie. Je livre cette remarque à titre de suggestion aux critiques et aux esthéticiens qui s'efforcent d'éclairer les dessous de cette mystérieuse sorte de langage. Dans la tradition fabuleuse, avais-je écrit en substance, la montagne est le lien entre la terre et le ciel. Son sommet unique touche au monde de l'éternité et sa base se ramifle en contreforts multiples dans le monde des mortels. Elle est la voie par laquelle l'homme peut s'élever à la divinité et la divinité se révéler à l'homme. Les patriarches et prophètes de l'Ancien Testament voient le Seigneur face à face sur des lieux élevés. C'est le Sinaï et c'est le Nébo de Moïse et ce sont dans le Nouveau Testament le mont des Oliviers. Et le Golgotha. J'allais jusqu'à retrouver ce vieux symbole de la montagne dans les savantes constructions pyramidales d'Égypte et de Chaldée, passant chez les Aryens. Je rappelais ces obscures légendes des Védas, où le soma, la liqueur, qui est la semence d'immortalité, est d'y résider sous sa forme lumineuse et subtile dans la montagne. Dans l'Inde, Himalaya est le séjour de Shiva, de son épouse, la fille de la montagne, et des mères, des mondes, de même qu'en Grèce, le roi des dieux tenait sa cour sur l'Olympe. Dans la mythologie grecque, justement, je trouvais le symbole complété par l'histoire de la révolte des enfants de la terre, qui avec leur nature terrestre et des moyens terrestres essayèrent d'escalader l'Olympe et de pénétrer dans le ciel avec leurs pieds glaiseux. N'était-ce pas d'ailleurs la même entreprise que poursuivaient les constructeurs de la tour de Babel, qui sans renoncer à leurs ambitions multiples et personnelles, prétendaient atteindre au royaume de l'unique impersonnel? En Chine, il était question des montagnes des bienheureux et les anciens sages instruisaient leurs disciples sur le bord des précipices. Après avoir ainsi fait le tour des mythologies les plus connues, je passais à des considérations générales sur les symboles que je rangeais en 2 classes. Ceux qui sont soumis à des règles de proportion seulement et ceux qui sont soumis en plus à des règles d'échelle. Cette distinction a souvent été faite. Je la rappelle pourtant, la proportion concerne les rapports entre les dimensions du monument. L'échelle les rapports entre ces dimensions et celles du corps humain. Un triangle équilatéral, symbole de la Trinité, a exactement la même valeur, quelle que soit sa dimension. Il n'a pas d'échelle. Par contre, prenez une cathédrale et faites-en une réduction exacte de quelques décimètres de haut. Cet objet transmettra toujours par sa figure et ses proportions le sens intellectuel du monument, même s'il faut en examiner à la loupe certains détails. Mais il ne produira plus du tout la même émotion, ne provoquera plus les mêmes attitudes, il ne sera plus à l'échelle. Et ce qui définit l'échelle de la montagne symbolique par excellence, celle que je proposais de nommer le mont analogue, c'est son inaccessibilité par les moyens humains ordinaires. Or, les Sinaï, Nebo et même Olympe sont devenus depuis longtemps ce que les alpinistes appellent
« des montagnes à vaches ».
Et même les plus hautes cimes de l'Himalaya ne sont plus regardées aujourd'hui comme inaccessibles. Tous ces sommets ont donc perdu leur puissance analogique. Le symbole a dû se réfugier en des montagnes tout à fait mythiques, telles que le Mérou des Hindous. Mais le Mérou, pour prendre cet unique exemple, s'il n'est plus situé géographiquement, ne peut plus conserver son sens émouvant de voix unissant la terre au ciel. Il peut encore signifier le centre ou l'axe de notre système planétaire, mais non plus le moyen pour l'homme d'y accéder. Pour qu'une montagne puisse jouer le rôle de mont analogue, concluai-je, il faut que son sommet soit inaccessible. Mais sa base accessible aux êtres humains tels que la nature les a fait. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l'invisible doit être visible. Voilà ce que j'avais écrit. Il ressortait en effet de mon article pris à la lettre que je croyais à l'existence, quelque part sur la surface du globe, d'une montagne beaucoup plus haute que le mont Everest. Ce qui était, du point de vue d'une personne dite sensée, une absurdité. Et voici que quelqu'un me prend au mot et me parle de tenter l'expédition. Un fou, un farceur. Mais moi, me dis-je tout à coup, moi qui ai écrit cet article, est-ce que mes lecteurs n'auraient pas le droit de me poser la même question? Allons, je suis un fou, ou un farceur, ou tout bonnement un littérateur? Eh bien, je peux l'avouer maintenant, tout en me posant ces questions peu agréables, je sentais qu'au fond de moi, malgré tout, quelque chose croyait fermement à la réalité matérielle du mont analogue. Le lendemain, dans la matinée, j'appelai un des numéros de téléphone indiqués dans la lettre à l'heure correspondante. Une voix féminine et mécanique m'attaqua aussitôt, m'avertissant que c'était
ici les laboratoires urine.
Et me demandant à qui je voulais parler. Après quelques cliquetis, une voix d'homme vint à ma rencontre.
Ah, c'est vous. Vous avez de la chance. Que le téléphone ne transmette pas les odeurs. Seriez-vous libre dimanche? Alors venez chez moi, vers 11h. Nous ferons une petite promenade dans mon parc avant de déjeuner.
Quoi?
Oui, bien sûr. Passage des Patriarches. Et alors? Ah, le parc. C'est mon laboratoire. Pensez que vous étiez alpiniste.
Oui?
Alors, entendu, n'est-ce pas? À dimanche.
Donc ce n'est pas un fou.
Un fou n'aurait pas une position importante dans une fabrique de parfums.
Alors un farceur? Cette voix chaude et résolue n'était pas celle d'un farceur.
Nous étions un jeudi, 3 jours d'attente, pendant lesquels mon entourage me trouva bien distrait. Ce dimanche matin, bousculant des tomates, glissant sur des pots de bananes, frôlant des commères en sueur, je me fis un chemin jusqu'au passage des Patriarches. Je passais sous un porche, interrogeais l'âme des corridors et me dirigeais
vers une porte au fond de la cour.
Avant de m'y introduire, je remarquais le long d'une muraille décrépite et renflée à mes hauteurs une corde double pendait d'une petite fenêtre du 5e étage, une culotte de velours. Pour autant que je pouvais percevoir de tels détails à cette distance, sortie par la fenêtre, elle plongeait dans des bas qui s'engageaient dans des chaussures souples. Le personnage qui se terminait ainsi par en bas, en se tenant d'une main à l'appui de la fenêtre, fit passer les deux brins de la corde entre ses jambes, puis autour de sa cuisse droite, puis obliquement sur sa poitrine jusqu'à l'épaule gauche, puis derrière le col relevé de sa courte veste, et enfin, qui, devant lui par-dessus l'épaule droite, tout cela en un tour de main. Il saisit les brins pendant de la main droite et les brins supérieurs de la main gauche, repoussa le mur du bout des pieds, et le torse droit, les jambes écartées, il descendit à la vitesse d'1,50 m à la seconde. Dans ce style qui fait si bien sur les photographies. Il avait à peine touché terre qu'une seconde silhouette s'engageait sur la même voie, mais ce nouveau personnage, arrivé à l'endroit où le vieux mur se bombait, reçut sur la tête quelque chose comme une vieille pomme de terre, qui alla se meurtrir sur le pavé, tandis qu'une voix d'en haut claironnait
« Pour vous habituer aux chutes de pierre !»
Il arriva pourtant en bas sans être trop déconcerté, mais ne termina pas son rappel de corde par le geste qui justifie cette appellation et qui consiste à tirer sur un des brins pour ramener le câble. Les deux hommes s'éloignèrent et franchirent le porche sous les yeux de la concierge qui les regarda passer d'un air dégoûté. Je poursuivis mon chemin, montait 4 étages d'un escalier de service et trouvait ses indications placardées près d'une fenêtre.
Pierre Sogol, professeur d'alpinisme. Leçon les jeudis et dimanches de 7h à 11h, moyen d'accès sortir par la fenêtre. Prendre une vire à gauche, escalader une cheminée, se rétablir sur une corniche, monter une pente de schiste désagrégée, suivre l'arrêt du nord au sud en contournant plusieurs gendarmes et entrer par la lucarne du versant est. Je me pliais volontiers à ces fantaisies, bien que l'escalier continuât jusqu'au 5e. La vire était un endroit rebord de la muraille, la cheminée un obscur enfoncement qui n'attendait que d'être fermé par la construction d'un immeuble contigu pour prendre le nom de cour. La pente de schiste, un vieux toit d'ardoise, et les gendarmes, des cheminées, mitrés et casqués. Je m'introduisis par la lucarne et me trouvai devant l'homme. Plutôt grand, maigre et vigoureux. Une forte moustache noire, des cheveux un peu crépus. Il avait la tranquillité de la panthère en cage, qui attend son heure. Il me regardait par de calmes yeux sombres et me tendait la main.
« Vous voyez ce que je dois faire pour gagner ma croûte ?»
me dit-il.
« J'aurais voulu vous recevoir mieux. »«
Je croyais que vous travailliez dans la parfumerie, » interrompis-je.
« Pas seulement. J'ai aussi affaire dans une fabrique d'appareils ménagers. Une maison d'articles de camping, un laboratoire de produits insecticides et une entreprise de photogravure. Je m'engage partout.
À réaliser les inventions jugées impossibles. Jusqu'ici, cela a réussi.
Mais comme on sait que je ne puis rien faire d'autre dans la vie
que d'inventer des absurdités, on ne me paye pas gros. Alors... je donne des leçons d'escalade à des fils de famille fatigués, du bridge et des croisières. Mettez-vous donc à votre aise et faites connaissance avec ma mansarde. C'était en fait plusieurs mansardes dont on avait abattu les cloisons et qui formaient un long atelier bas de plafond mais éclairé et aéré à une extrémité par une vaste verrière. Sous la verrière se tassait le matériel ordinaire d'un cabinet de sciences physico-chimiques. Et tout autour tournait en rond un chemin de pierrail. Imitant le plus mauvais muletier bordé d'arbrisseaux et de buissons en
pot ou en caisse, plantes grasses, petits conifères, palémiers, nains, rhododendrons. Le long du sentier collé aux vitres, ou accroché aux arbustes, ou pendant du plafond, de sorte que l'espace libre était utilisé au maximum. S'offrait à la vue des centaines de petites pancartes. Chacune portait un dessin, une photographie ou une inscription, et leur ensemble constituait
une véritable encyclopédie.
De ce que nous appelons les connaissances humaines. Un schéma d'une cellule végétale.
Le tableau des corps simples de Mendeleïev. Les clés de l'écriture chinoise. Une coupe du cœur humain.
Les formules de transformation de Lorentz.
Chaque planète avec ses caractéristiques. La série des chevaux fossiles. Des hiéroglyphes mayas. Des statistiques économiques et démographiques.
Des phrases musicales.
Les représentants des grandes familles végétales et animales.
Les types de cristaux. Le plan de la grande pyramide.
Des encéphalogrammes. Des formules logistiques. Des tableaux de tous les sons. Employé dans toutes les langues, des cartes géographiques, des généalogies, enfin tout ce qui devrait meubler le cerveau d'un mirandole du XXe siècle. Par-ci, par-là, des bocaux, des aquariums, des cages contenaient des faunes extravagantes. Mais mon hôte ne me laissa pas m'attarder à regarder ces holothuries, ces calmars, ces argigorettes, ces termites, ces fourmilions, ces axolotles. Il m'entraîna sur le sentier où nous pouvions tout juste tenir tous les deux de front et m'invita à me mettre en marche autour du laboratoire. Grâce à un petit courant d'air, et aux odeurs des conifères nains, on pouvait avoir l'impression de gravir les lacets d'un chemin de montagne interminable.
« Vous comprenez ?»
me dit Pierre Sogol.
« Nous avons à décider de choses si graves, dont les conséquences peuvent avoir tant de répercussions dans tous les recoins de nos vies, à vous et à moi, que nous ne pouvons pas tirer.
Comme cela, de but en blanc,
sans avoir un peu fait connaissance. Marcher ensemble, parler, manger, se taire ensemble, voilà ce que nous pouvons faire aujourd'hui. » Plus tard, je crois que nous aurons des occasions d'agir ensemble, de souffrir ensemble, et il faut bien tout cela pour faire connaissance, comme on dit.
Tout naturellement, nous parlâmes de la montagne. Il avait couru tous les plus hauts massifs connus de notre planète, et je sentais que chacun, à un bout d'une bonne corde, nous aurions pu ce jour même nous lancer dans les plus folles aventures alpines. Puis la conversation fit des sauts, des glissades, des volte-face, et je compris l'usage qu'il faisait de tous ces bouts de carton. Étalait devant nous le savoir de notre siècle, ses figures et inscriptions. Nous en avons tous une collection plus ou moins étendue dans notre tête, et nous avons l'illusion que nous pensons. Les plus hautes pensées scientifiques et philosophiques, en quelques-unes de ces fiches, se sont groupées d'une façon ni trop coutumière ni trop nouvelle, par hasard, c'est-à-dire par l'effet des courants d'air, ou simplement du fait du mouvement incessant qui les agite, comme le mouvement brownien agite les particules en suspension, dans un liquide. Ici, tout ce matériel était visiblement hors de nous. Nous ne pouvions nous confondre avec lui, comme une guirlande à des clous. Nous suspendions notre conversation à ces petites images, et chacun voyait les mécanismes de la pensée de l'autre et de la sienne propre, avec une égale clarté. Il y avait dans la manière de penser de cet homme, comme dans toutes ses apparences, un singulier mélange de vigoureuse maturité et de fraîcheur enfantine, mais surtout de même que je sentais à côté de moi ses jambes. Nerveuses et infatigables, je ressentais sa pensée comme une force, aussi sensible que la chaleur, la lumière ou le vent. Cette force, c'était une faculté exceptionnelle de voir les idées comme des faits extérieurs et d'établir des liens nouveaux entre des idées d'apparence tout à fait disparates. Je l'entendais, je le voyais même, oserais-je dire, traiter de l'histoire humaine comme d'un problème de géométrie descriptive. Puis la minute suivante, parler des propriétés des nombres comme s'il se fût agi d'espèces zoologiques. La fusion et la scission des cellules vivantes devenaient un cas particulier de raisonnement logique. Et le langage prenait ses lois dans la mécanique céleste. Je lui donnais péniblement les répliques et bientôt j'étais pris de vertige. Il s'en apercevait et se mettait alors à me parler de sa vie passée. Encore jeune, j'avais connu à peu près tous les plaisirs et tous les désagréments, tous les bonheurs et toutes les souffrances qui peuvent échoir à l'homme en tant qu'animal social. Inutile de vous donner des détails. Le répertoire des événements possibles, la destinée humaine est assez limitée. Ce sont toujours à peu près les mêmes histoires. Je vous dirai seulement que je me trouvais un jour, un seul, tout seul, avec la certitude que j'avais fini un cycle d'existence. J'avais beaucoup voyagé, étudié les sciences les plus hétéroclites, appris une dizaine de métiers, la vie me traitait un peu comme un organisme traite un corps étranger, elle cherchait visiblement ou à m'enquister ou à m'expulser. Et moi-même j'avais soif d'autre chose. Je crus trouver cette autre chose. Dans la religion, j'entrais dans un monastère, un curieux monastère, quel ou peu importe. Sachez pourtant qu'il appartenait à un ordre pour le moins hérétique. Il y avait en particulier une coutume très curieuse dans la règle de l'ordre. Chaque matin, notre supérieur nous remettait à chacun, nous étions une trentaine, un papier plié en quatre. Un de ces papiers portait l'inscription « Tu Houdier ». Et le supérieur seul savait à qui il était échu. Certains jours, d'ailleurs, je crois bien que tous les papiers étaient blancs. Mais comme on n'en savait rien, le résultat, vous allez voir, était le même. C'est toi aujourd'hui. Cela voulait dire que le frère, ainsi désigné à l'insu de tous les autres, jouerait pendant toute cette journée le rôle du tentateur. J'ai assisté parmi certaines peuplades africaines et autres à des cultes assez horribles, des sacrifices humains, des rites anthropophagiques. Mais je n'ai jamais rencontré dans aucune secte religieuse ou magique de coutume aussi cruelle que cette institution du tentateur quotidien. Voyez-vous 30 hommes vivant d'une vie commune, déjà détraqués par la perpétuelle terreur du péché, se regardant les uns les autres avec la pensée obsédante que l'un d'eux, sans qu'ils sachent lequel, est spécialement chargé de mettre à l'épreuve leur foi, leur humilité, leur charité. Il y avait là comme une caricature diabolique d'une grande idée, de cette idée qu'en mon semblable comme en moi-même, il y a une personne à haïr et une personne à aimer. Car une chose me prouve le caractère satanique de cette coutume, c'est que personne parmi les religieux n'avait jamais refusé de tenir le rôle de tentateur. Aucun, lorsque le tu hodi lui était remis, n'avait le moindre doute qu'il ne fût et capable et digne de jouer ce personnage. Le tentateur était lui-même victime d'une monstrueuse tentation. Moi-même, j'avais accepté ce rôle d'agent provocateur, plusieurs fois, par obéissance à la règle, et c'est le plus honteux souvenir de ma vie. J'ai accepté tant que je n'eus pas compris dans quel traquenard j'étais tombé. Jusqu'alors, j'avais toujours démasqué le Satan de service. Ces malheureux étaient si naïfs, toujours les mêmes trucs qu'ils croyaient très subtils, les pauvres diables. Toute leur habileté consistait à jouer sur quelques mensonges fondamentaux et commun à tous, tel que suivre les règles à la lettre, c'est bon pour les imbéciles qui ne peuvent pas en saisir l'esprit. Ou encore, moi, hélas, avec ma santé, je ne peux pas me permettre de telles rigueurs. Une fois pourtant, le diable du jour a réussi à m'avoir. C'était cette fois-là un grand gaillard
taillé à la hache avec des yeux bleus d'enfant. Pendant un repos, il s'approche de moi et me dit « Je vois que vous m'avez reconnu. »
Rien à faire avec vous, vous êtes vraiment trop perspicace. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de cet artifice pour savoir que la tentation est toujours partout autour de nous. Ou plutôt en nous. Mais voyez, l'insondable veulerie de l'homme. Tous les moyens qui lui sont donnés pour se sentir éveillé, il finit par en orner son sommeil. On porte le cilice comme on porterait un monocle. On chante les matines comme d'autres vont jouer au golf. Ah, si les savants d'aujourd'hui, au lieu d'inventer sans cesse de nouveaux moyens de rendre la vie plus facile, mettaient leur ingéniosité à fabriquer des instruments propres attirer les hommes de leur torpeur.
Il y a bien les mitrailleuses, mais cela dépasse de trop le but.
Il parla si bien que le soir même, le cerveau en fièvre, j'obtins du supérieur l'autorisation d'occuper mes heures de loisir à l'invention et la fabrication d'instruments de ce genre. J'inventai aussitôt des appareils ahurissants. Un stylo qui bavait ou éclaboussait toutes les 5 ou 10 minutes, à l'usage des écrivains qui ont la plume trop facile.
Un minuscule phonographe portatif, muni d'un écouteur semblable à ceux des appareils pour sourds à conduction osseuse,
qui au moment les plus imprévus vous criait par exemple
« Pour qui te prends-tu ?»
Un coussin pneumatique, que j'appelais le molle oreiller du doute, et qui se dégonflait à l'improviste, sous la tête du dormeur.
Un miroir, dont la courbure était étudiée de telle façon, cela m'en avait donné un mal, que tout visage
humain s'y reflétait
en tête de porc.
Et bien d'autres. J'étais donc en plein travail, au point que je ne reconnaissais même plus les tentateurs quotidiens, qui avaient beau jeu de m'encourager, lorsqu'un matin je reçus le tuyau dit. Le premier frère que je rencontrai fut le grand gaillard aux yeux bleus. Il m'accueillit avec un sourire amer qui me doucha. Je vis du même coup et l'enfantillage de mes recherches et l'ignominie du rôle qu'on me proposait de jouer. J'allais contre toutes les règles trouver le supérieur et lui dis que je ne pouvais plus accepter de faire le diable. Il me parla avec une douceur sévère, peut-être sincère, peut-être professionnelle.
« Mon fils, » conclut-il, « je vois qu'il y a en vous un inguérissable besoin de comprendre qui ne vous permet pas de rester plus longtemps dans cette maison. Nous prierons Dieu qu'il veuille vous appeler à lui par d'autres voies. »
Le soir même, je prenais le train pour Paris.
J'étais entré dans ce monastère sous le nom de frère Petrus.
J'en sortais avec le titre de Père Sogol. J'ai conservé ce pseudonyme. Les religieux, mes compagnons, m'avaient ainsi appelé à cause d'une tournure d'esprit qu'ils avaient remarquée en moi, qui me faisait prendre au moins à titre d'essai le contre-pied de toutes les affirmations qui m'étaient proposées. Invertir en toute chose la cause et les faits.
Le principe et la conséquence.
La substance et l'accident.
Sogol. L'anagramme était un peu enfantin.
Un peu prétentieux aussi.
Mais j'avais besoin d'un nom qui sonnât bien. Et il me rappelait une règle de pensée qui m'a beaucoup servi. Grâce à mes connaissances scientifiques et techniques, je trouvais bientôt quelques emplois
dans divers laboratoires et établissements industriels. Je réadaptais peu à peu à la vie du siècle tout extérieur.
Comment il est vrai, car au fond, je n'arrive pas à m'accrocher à cette agitation de cage à singe qu'ils appellent la vie avec des airs dramatiques.
Une sonnerie retentit. « Bien, ma bonne physique, bien !»
cria le père Sogol, et il m'expliqua.
« Le déjeuner est prêt, allons donc. »
Il me fit quitter le sentier, montrant d'un geste toute la science humaine contemporaine inscrite en petits rectangles devant nos yeux, il dit d'une voix sombre.
« Du toc. Tout ça, du toc. » Il n'y a pas une seule de ces fiches dont je puisse dire « voici une vérité ». Une petite vérité sûre et certaine. Il n'y a dans tout cela que des mystères.
Ou des erreurs. Où les uns finissent, les autres commencent. Nous passâmes dans une autre petite pièce toute blanche, où la table était servie.
Voici au moins quelque chose de relativement réel, si l'on peut rapprocher ces deux mots sans que ça fasse explosion.
Reprit-il comme nous nous installions de chaque côté d'un de ces plats campagnards ou autour d'un morceau d'animal bouilli. Toutes les légumes de la saison tressent leur vapeur.
Encore faut-il que cette brave physique mette en œuvre toute sa vieille astuce bretonne pour réunir sur ma table les éléments d'un repas.
Où n'entre ni sulfate de baryte, ni gélatine, ni acide borique, ni
acide sulfureux, ni aldéhyde formique,
ni autre drogue.
L'industrie alimentaire contemporaine. Un bon pot-au-feu vaut tout de même mieux qu'une philosophie menteuse.
Nous mangeâmes en silence. Mon hôte ne se croyait pas obligé de bavarder en mangeant et je l'en estimais beaucoup.
Il n'avait pas peur de se taire quand il n'avait rien à dire, ni de réfléchir avant de parler. En rapportant maintenant notre conversation, je crains d'avoir donné l'impression qu'il discourait sans arrêt. En réalité, ses récits et ses confidences étaient entrecoupés de longs silences. Et souvent aussi j'avais pris la parole, je lui avais raconté à grands traits ma vie jusqu'à ce jour, mais cela ne vaut pas la peine d'être produit ici. Quant au silence, comment raconter des silences au moyen de mots? Seule la poésie pourrait le faire. Après le repas, nous revînmes au parc, sous la verrière, et nous nous allongeâmes sur des tapis et sur des coussins de cuir. C'est un moyen très simple de rendre de l'espace à un local bas de plafond. Physique apporta le café silencieusement, et Sogol se remit à parler. Tout ça remplit l'estomac, mais guère plus.
Avec un peu d'argent, on arrive bien à tirer de la civilisation ambiante les quelques satisfactions corporelles élémentaires. Pour le reste, c'est du toc, des tics et des trucs. Voilà toute notre vie, entre le diaphragme et la voûte crânienne. Mon supérieur avait bien dit, je souffre d'un inguérissable besoin de comprendre. Je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi j'avais vécu. Et vous, avez-vous jamais eu peur de la mort ? Je fouillais en silence mes souvenirs, des souvenirs profonds où les mots ne s'étaient pas encore mis, et je dis difficilement. Oui. Vers l'âge de 6 ans, j'avais entendu parler de mouches qui piquent les gens pendant leur sommeil. Quelqu'un avait fait cette plaisanterie que quand on se réveille, on est mort. Cette phrase m'obsédait. Le soir dans mon lit, la lumière éteinte, j'essayais de me représenter la mort. Le plus rien du tout. Je supprimais en imagination tout ce qui faisait le décor de ma vie et j'étais serré dans des cercles de plus en plus étroits d'angoisse. Il n'y aura plus moi. Qu'est-ce que c'est moi ? Je n'arrivais pas à le saisir. Moi me glissais de la pensée comme un poisson des mains d'un aveugle. Je ne pouvais plus dormir. Pendant 3 ans, ces nuits d'interrogation dans le noir revinrent plus ou moins fréquemment. Puis une certaine nuit, une idée merveilleuse m'est venue. Au lieu de subir cette angoisse, tâcher de l'observer, de voir où elle est, ce qu'elle est. Je vis alors qu'elle était liée à une crispation de quelque chose dans le ventre et un peu sous les côtes et aussi dans la gorge. Je me rappelais que j'étais sujet à des angines. Je m'efforçais de me relâcher, de détendre mon ventre. L'angoisse disparut, j'essayais de penser encore dans cet état à la mort et cette fois, au lieu d'être saisi par la griffe de l'angoisse, je fus envahi d'un sentiment tout nouveau auquel je ne connaissais pas de nom, qui tenait du mystère et de l'espérance. Et puis vous avez grandi. Vous avez étudié, vous avez commencé à philosopher, n'est-ce pas ? Nous en sommes tous là. Il semble que l'âge de l'adolescence, la vie intérieure du jeune être humain, se trouve soudain aveli, châtré de son courage naturel. Sa pensée n'ose plus affronter la réalité ou le mystère en face directement. Elle se met à aller regarder à travers les opinions des grands, à travers les livres et les cours des professeurs. Il y a pourtant là une voix qui n'est pas tout à fait tuée, qui crie parfois, chaque fois qu'elle le peut. Chaque fois qu'un chaos de l'existence dessert le bâillon, qui crie son interrogation et nous l'étouffons aussitôt. Ainsi nous nous comprenons déjà un peu. Je puis vous dire, donc, que j'ai la peur de la mort. Non pas de ce qu'on imagine la mort, car cette peur est elle-même imaginaire, non pas de ma mort, dont la date sera consignée dans les registres de l'état civil, mais de cette mort que je subis à chaque instant, de la mort, de cette voix qui, du fond de mon enfance, à moi aussi interroge, que suis-je, que tout en nous et autour de nous semble agencer pour étouffer encore et toujours, quand cette voix ne parle pas, et ne parle pas souvent. Je suis une carcasse vide, un cadavre agité. J'ai peur qu'un jour elle ne se taise à jamais, ou qu'elle ne se réveille trop tard. Comme dans votre histoire de mouche, quand on se réveille, on est mort.
Et voilà, fit-il presque violemment. Je vous ai dit l'essentiel. Tout le reste, ce sont des détails. Depuis des années, j'attends de pouvoir dire cela à quelqu'un. Ils étaient assis et je vis que cet homme devait avoir une raison en acier pour résister à la pression de la folie qui bouillonnait en lui. Il était maintenant un peu détendu et comme soulagé.
Et seul bon moment, reprit-il après avoir changé de position, c'était en été, quand je reprenais les souliers ferrés, le sac et le piolet pour courir les montagnes. Je n'avais jamais de très longues vacances, mais j'en profitais. Après 10 ou 11 mois passés à perfectionner des aspirateurs de poussière ou des parfums synthétiques, après une nuit de chemin de fer et une journée d'autocar, lorsque j'arrivais, les muscles encore encrassés des poisons de la ville, premier champ de neige, il m'arrivait de pleurer comme un idiot, la tête vide, les membres ivres et le cœur ouvert. Quelques jours après, arc bouté dans une fissure ou chevauchant une arête, je me retrouvais. Je reconnaissais en moi des personnages que je n'avais pas vus depuis l'été précédent. Mais c'était toujours les mêmes personnages après tout. Or, j'avais entendu parler, comme vous, dans mes lectures et dans mes voyages, d'hommes d'un type supérieur, possédant les clés de tout ce qui est mystère pour nous. Cette idée d'une humanité invisible, intérieure à l'humanité visible, je ne pouvais me résigner à la regarder comme une simple allégorie. Il était prouvé par l'expérience, me disais-je, qu'un homme ne peut pas atteindre directement et de lui-même la vérité. Il fallait qu'un intermédiaire existât, encore humain par certains côtés, et dépassant l'humanité par d'autres côtés. Il fallait que, quelque part sur notre terre, vécût cette humanité supérieure et qu'elle ne fût pas absolument inaccessible. Et alors, tous mes efforts ne devaient-ils pas être consacrés à la découvrir ? Même si, malgré ma certitude, j'étais victime d'une monstrueuse illusion, je n'aurais rien perdu à faire de tels efforts. Puisque, de toute façon, hors de cet espoir, toute la vie était dépourvue de sens. Mais où chercher? Par où commencer? J'avais déjà bien couru le monde, fourré mon nez partout, dans toutes sortes de sectes religieuses et d'écoles mystiques, mais devant chacune c'était toujours « peut-être que oui, peut-être que non ». Pourquoi aurais-je misé ma vie sur celle-ci plutôt que sur celle-là? Vous comprenez? Je n'avais pas de pierre de touche. Mais du fait que nous sommes deux, tout change. La tâche ne devient pas deux fois plus facile, non, mais d'impossible, elle devient possible. C'est comme si, pour mesurer la distance d'un astre à notre planète, vous me donnez un point connu sur la surface du globe, le calcul est impossible. Donnez-moi un second point, il devient possible, parce qu'alors, je peux construire le triangle. Ce saut brusque dans la géométrie était bien dans sa manière. Je ne sais pas si je le comprenais très bien, mais il y avait là une force qui me convainquait. « Votre article sur le mont analogue m'a illuminé, » continua-t-il. « Il existe. Nous le savons tous les deux. Donc nous le découvrirons. » Ou, cela, c'est une affaire de calcul. Dans quelques jours, je vous promets que j'aurai déterminé à quelques degrés près sa position géographique et nous partons aussitôt. N'est-ce pas?
Oui, mais
comment? Par quelle voie? Quel mode de transport? Avec quel argent? Pour combien de temps? Tout cela, ce sont des détails. Je suis sûr d'ailleurs que nous ne serons pas seuls. Deux personnes en convainquent une troisième et cela fait boule de neige. Bien qu'il faille compter avec ce que les gens appellent leur bon sens, les pauvres... C'est leur bon sens comme le bon sens de l'eau est de couler, tant qu'on ne la met pas à bouillir sur le feu, ou dans une glacière à geler. Et même, oui, battons le fer jusqu'à ce qu'il s'échauffe s'il n'y a pas assez de feu. Fixons la première réunion à dimanche, ici. J'ai 5 ou 6 bons camarades qui viendront sûrement. Il y en a bien un qui est en Angleterre, d'autres... Deux autres en Suisse, mais ils seront là. Il a toujours été convenu entre nous que...
Nous ne ferions jamais de grandes
courses les uns sans les autres.
Et pour une grande course, ce serait une grande course.
Pour ma part, dis-je, je vois aussi quelques personnes qui pourraient se joindre à nous.
Invitez-les donc pour 4 heures, mais vous venez avant.
Vers 2 heures, mes calculs seront certainement au point. Alors vous devez déjà me quitter? Bon, voilà la sortie.
Dit-il en me montrant la petite fenêtre d'où pendait la corde de rappel.
Il n'y a que physique qui se sert de l'escalier. Au revoir.
Je m'enveloppai de la corde qui sentait l'herbe et l'écurie et fus en bas en quelques instants. Je me retrouvai dans la rue avec une sensation d'étrangeté, de non-adhérence, glissant sur des pots de bananes, renversant des tomates et bousculant des commères en sueur. Si, pendant mon trajet du passage des Patriarches
jusqu'à l'appartement que
j'habitais dans le quartier des Saint-Germain-des-Prés, j'avais pensé à me regarder
comme un étranger transparent, j'aurais pu découvrir une des lois qui régissent le comportement des bipèdes sans plumes inaptes à l'interaction du nombre pi.
Selon la définition que
Père Sogol donnait de l'espèce à laquelle lui, vous et moi nous appartenons.
Cette loi pourrait se formuler, la résonance aux plus proches affirmations, mais les guides du mont analogue, qui me l'exposèrent plus tard, l'appelaient simplement la
caméléon.
Le père Sogol m'avait vraiment convaincu, et tandis qu'il me parlait, j'étais tout prêt à le suivre, dans sa folle expédition. Mais à mesure que je me rapprochais de mon domicile où j'allais retrouver toutes mes vieilles habitudes, oui, je me représentais
mes collègues de bureau,
mes confrères écrivains, mes meilleurs camarades, écoutant le récit de l'étonnante entrevue que je venais d'avoir, j'imaginais leur sarcasme, leur scepticisme, leur apitoiement, je commençais à me méfier de ma naïveté, de ma crédulité, si bien que lorsque j'entrepris de raconter à ma femme mon entretien avec Sogol, je me surpris à employer des expressions telles que « un drôle de bonhomme ». Un moine défroqué, un inventeur un peu loufoque, un projet extravagant. Aussi ce fut avec stupeur que je l'entendis me dire, mon récit achevé.
Eh bien, il a raison. Je vais commencer dès ce soir à préparer la malle, car vous n'êtes pas seulement deux, nous serons déjà 3.
Alors tu prends vraiment cela au sérieux?
C'est la première idée sérieuse que je rencontre dans ma vie.
Et la puissance de la loi caméléon est si grande que je me remis à considérer l'entreprise du père Sogol comme, en effet, tout à fait raisonnable.